gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Piquet, do you feel good? Comment ça va? Bien, bon.
Bonsoir, c'est dimanche, c'est 22h et donc c'est La Causerie sur Radio Canu ou sur radiocanu.org. Ce soir, nous avons dans les studios à la technique Clara.
Bonsoir.
Ensuite, nous avons Stan.
Bonsoir.
Nous avons Jonathan.
Bonsoir.
Et nous avons Jean-Yves.
Bonsoir. Et Fab.
Salut. Voilà.
Qui nous a fait une belle ouverture.
Ah, je fais ce que je peux. Et donc du coup, petit rappel, pour nous joindre, c'est lacauseriecanu@gmail.com en minuscule, lacauseriecanu tout attaché, @gmail.com. Vous pouvez nous retrouver sur le blog des émissions qui se trouve à...
Blogs, au pluriel, donc blogs.radiocanu.org/lacauserie.
Voilà, ou sinon vous allez sur radiocanu.org et vous cherchez les blogs des émissions. Il y a un truc qui s'appelle La Causerie, c'est nous.
Et il y a aussi La Causerie sur un espace... dit social.
Facebook, quoi.
Ouais, dites-le si vous voulez, faites-leur de la pub.
Ouais, on s'en fout, on en fait toutes les semaines. On n'est plus à ça près. Donc, ce soir, eh ben, une émission qui va être un peu thématique sans vouloir l'être au départ, vous verrez, c'est sympathique. Et on va commencer par toi, Stan, qui avait envie de parler de le rapport entre YouTubeur et télévision.
Exactement. Et puis je serai aussi le sujet un peu presque joyeux de la soirée.
Il en fallait un.
Ça va de pire en pire.
Ne faites pas fuir les auditeurs et les auditrices, enfin.
Mais si, qui prépare les mouchoirs. Alors, donc j'ai déjà critiqué Ardisson il y a quelques émissions de cela, hein, au travers du harcèlement sexuel. Du harcèlement. Mais là, en fait, il a encore fait de la merde, alors je recommence. Voilà. Dimanche dernier, dans Salut les Terriens. C'est samedi d'ailleurs, je crois que c'est samedi, ça lui dit rien. Se trouve un invité des internets, Squeezie. Alors ce nom vous dit peut-être rien, dans l'idée c'est un jeune qui fait des montages de lui en train de jouer à des jeux vidéo sur YouTube. C'est un YouTuber donc. Il vient à la mission là, faire la promo d'un bouquin, une sorte de cahier de vacances et d'amusement. Enfin, pas d'avis là-dessus, je parlerai de Squeezie un peu plus en détail ensuite. Durant l'émission, donc, il y a fort logiquement l'interview de l'invité. Hein, voilà, c'est avec, sur un ton de moquerie quasiment tout le long, assez gênant. Donc exemple... Vous êtes un génie car vous vous filmez en train de jouer à des jeux vidéo, le diffusez, les gens regardent. Et comme il y a de la pub, vous gagnez de l'argent, je dois dire bravo. Et oui, pourquoi il y a des gens qui regardent d'autres gens faire quelque chose alors qu'ils pourraient directement le faire? C'est complètement con. Hein, c'est pareil que de regarder du foot en fait. Regarder des gens qui jouent à quelque chose alors qu'elles pourraient jouer. Enfin, c'est un petit peu ce qui a fait le succès de Canal+, par exemple. Mais ça serait un peu ballot de réaliser cela, vu que Ardisson est sur C8 et que C8, c'est une chaîne du groupe Canal+. Et puis, ça serait encore plus cocasse qu'il y ait une émission où il y a des gens qui regardent des gens jouer à des jeux vidéo sur cette chaîne-là. Ouais, c'est le dimanche soir à 23h, là, juste après, vous pouvez aller sur C8. C'est une émission de jeux vidéo. Tout se passe bien. Voilà. Donc, Baffy en profite, hein, voilà, le joyeux luron toujours de la bande. On a déjà vu des branleurs dans l'émission, mais alors celui-là, il est magnifique. Alors, pour indication, la réalisation d'une vidéo de Squeezie, tournage, montage, recherche du jeu, etc., etc., ça prend 8-10 heures, quoi. Donc, il en sort 4 par semaine. Après, il fait en plus tout ce qu'il y a autour au niveau des réseaux sociaux, etc., parce que c'est un métier de com, donc ils font quand même continuer à être dessus. Donc, c'est sûr que c'est pas le boulot le plus chiant de l'humanité, hein, c'est une certitude, mais ça reste un boulot qui demande beaucoup de temps et d'investissement. Squeezie garde son calme et son sérieux, alors que la twittosphère à ce moment-là est en furie, en train de défoncer Ardisson comme elle peut. Oui, ça m'énerve un petit peu de voir des choses comme ça. Un mec qui profite de son audience pour ridiculiser une personne qui n'a rien demandé. Parce qu'on le sait que dans les yeux de la télé, Internet, c'est pas bien. Et c'est important de se casser au maximum l'image d'Internet. Ardisson fait l'amuseur en commençant l'interview sur un ton sarcastique, en indiquant que la télé est un média mort vis-à-vis d'Internet, tout en démontrant tout le long de son interview à quel point Internet, ça peut être nul et inintéressant. D'ailleurs, je vais faire un petit point sur les audiences parce que je trouvais ça marrant entre Ardisson et Squeezie. Je vais prendre les. Alors, j'ai fait ça très très bien, vous allez voir. Je prends les deux émissions d'Ardisson, Salut les Terriens et Les Terriens du Dimanche. Je prends les audiences du 9 septembre au 11 novembre, donc depuis la rentrée d'Ardisson. Hein, parce qu'il faut pas en plus, je vais pas prendre une période où Squeezie n'est pas en vacances, mais Ardisson oui, vu que Squeezie fait des vidéos toute l'année. Au cumulé, nous avons donc pour Salut les Terriens 9,5 millions de spectateurs. Sur la même période, 6,5 millions pour Les Terriens du Dimanche, soit 16 millions de spectateurs sur 60 jours. Alors on va me dire, oui mais c'est pas la même chose, des émissions d'une heure ou de deux heures, et alors que Squeezie c'est des vidéos courtes. Ok. Une vidéo de Squeezie c'est 10 minutes. Donc Salut les Terriens 60 minutes, 9,5 x 6, 57. Les Terriens du Dimanche 120 minutes, 6,5 x 12, 78. On arrive à... Je rajoute en plus les 5 millions de vues sur Internet, sur la chaîne YouTube de Salut les Terriens. On arrive à 140 millions de vues pour Ardisson. Bravo. Maintenant, je regarde sur Squeezie, même période, 60 jours, 230 millions. Merci. Alors, j'ai des chiffres bruts, hein, il y a 90 millions d'écart entre les deux. À la surprise de tout le monde, donc Squeezie a fait beaucoup plus d'audience que Ardisson, et a donc peut être potentiellement plus connu. D'ailleurs, à la question, la télé, c'est nul, c'est ingrave, mais vous n'avez rien trouvé de mieux pour donner aux gens envie d'acheter un livre, vous n'êtes pas d'accord avec ça? La réponse de Squeezie. Si, une vidéo sur YouTube, ça marche mieux. Mais bon, la télé, c'est sympa quand même. Je regarde les chiffres. 10 minutes d'interview, 944 000 spectateurs pendant l'émission, contre une vidéo postée il y a deux jours avec déjà 2,4 millions de spectateurs. Voilà. Ça, c'était juste pour indiquer à tout le monde que y a le monde qui change et qu'il y a des petits jeunes qui sont bientôt plus connus et qui sont déjà plus écoutés que ces vieux animateurs qui pensent qu'ils sont déjà au-dessus de tout. Voilà. Mais donc, qui est Squeezie, ce petit youtubeur? Donc, en fait, c'est le deuxième plus gros français, c'est même le plus gros en termes de vues. Il passe son temps, un de ces jeunes qui passe son temps à jouer aux jeux vidéo. En fait, il cherche à faire de l'humour en utilisant le média des jeux vidéo. C'est un petit peu ce que les gens ne comprennent pas. Son but, c'est humoristique, en fait. Il va faire de la veille pour sélectionner des jeux vidéo, comme Ardisson ferait de la veille pour sélectionner quels sont les invités à prendre. Il va faire des montages pour que ça soit drôle et dynamique, même si maintenant il a une équipe un petit peu pour faire ça autour de lui, comme Ardisson ne fait pas les montages de ses films, de ses émissions. Il va faire des pseudo-sketchs, il va faire de la musique avec un duo de rappeurs. Il va être à l'écoute de la communauté, tenter de nouvelles choses, parfois même parler de sujets un peu lourds. Alors oui, il va faire des vidéos sur des jeux de tout genre, et parfois sans grand intérêt, voire même borderline. Ça reste un jeune de 20 ans sur Internet. Je ne défendrai pas la qualité de son contenu, qui est clairement pas ce qui est de mieux qu'on peut trouver. Mais
Ardisson non plus.
Mais Ardisson non plus. À côté de ça, Squeezie, il a invité Alain Rey, rédacteur en chef des publications du Robert, pour, vous savez, le dico, hein, pour parler de mots, et ensuite il en a fait une musique avec Big Flo et Oli. Il a une audience assez jeune, hein, c'est du 10-20-25 ans. Dernièrement, il a joué à un jeu qui s'appelle Enterre-moi mon amour. C'est une fiction interactive qui vous permet de suivre un voyage, le voyage d'une migrante syrienne qui cherche à rejoindre l'Europe, l'Allemagne plus précisément. Au travers d'une conversation WhatsApp, vous allez pouvoir suivre et l'aider dans ses choix. C'est un jeu tiré de faits réels et d'un article du Monde, le voyage d'une migrante syrienne à travers son fil WhatsApp. Il parle du jeu, mais il parle aussi de l'article du Monde, Squeezie. Je le cite, c'est un article incroyable, allez voir ça, c'est riche en émotions, c'est très bien fait, bravo à la journaliste. Nous on a la chance de vivre dans un pays développé où il n'y a pas de conflit comme cela, on ne doit pas fuir notre pays à cause d'une guerre. Donc là on va un peu se prendre la réalité en pleine gueule. Je vous invite moi personnellement à aller lire l'article du Monde, on le mettra dans les liens dans la causerie. Enfin, il n'y a pas de mots, mais c'est incroyable. Je reviens sur Squeezie, donc on est là devant un petit jeune d'une vingtaine d'années qui pousse d'autres gens par un moyen ludique à s'intéresser de divers sujets, donc parfois difficiles, comme je viens de dire. Alors oui, il gagne de l'argent, c'est son métier. Il pourrait très bien faire ça sans se prendre la tête sur ce genre de sujet. Il a envie de le faire. Pour son passage à la télé, par exemple, il pousse à aller voir ce qui se fait ailleurs sur Internet, pas que sa chaîne. Il va parler de chaînes d'histoire, de sciences, de politique. On trouve de tout sur Internet. Et j'aime bien que le petit jeune, il dise, allez pas forcément voir moi, il y a plein d'autres gens, plein d'autres choses en fait à aller voir. Ardisson, de son côté, lui, il incarne la télévision poubelle. Déplorable. Après avoir demandé quelques émissions avant à Vald, un rappeur, lui aussi aimé par les jeunes, s'il enviait son frère musulman. Alors, Vald y répond, non, mais je l'aime de tout mon cœur. Et Ardisson répond, mais il est musulman. Ok. Voilà, moi je n'ai toujours pas compris pourquoi est-ce que Ardisson disait ça après. Quoi.
Ben moi j'aime bien rappeler quand même que Ardisson est un royaliste catholique et fervent. Faut jamais l'oublier, hein. Derrière son côté coque, vie et fille facile, c'est la morale hein, qu'il y a derrière lui quand même.
On reste avec Ardisson sur une télévision qui refuse de changer, une vieille France presque, je dirais, qui refuse de bouger. Le syndrome d'un monde qui refuse le changement, qui inexorablement avance. On reste sur un Ardisson qui ne comprend pas ce qui se passe et qui se bat pour garder sa gloire. Qui, au lieu de se remettre en question, préfère railler. Le stéréotype même d'une France, frange de la population qui a peur de devoir évoluer. Qu'on ne soit pas tous d'accord sur là où on doit aller et là où on veut aller, c'est un fait. Que des gens préfèrent fermer les yeux et se dire uniquement qu'il ne faut toucher à rien, ça c'est un danger. À mon sens, en tout cas. Et je finirai par un tweet de Olivier Morin, animateur sur Canal+, donc du même groupe que Ardisson. Quel dommage, monsieur Ardisson, d'avoir si peu d'estime pour les générations futures. Vous aviez une chance de les respecter, de les considérer. Vous venez de leur cracher au visage. Ne vous étonnez pas si personne ne vous regarde. Cordialement, les gamers.
Après, moi, je m'interroge par rapport à ça. Est-ce que c'est pas un jeu médiatique, finalement, qui montre que, ben... En faisant ça, on fait de l'audience. Ardisson fait de l'audience, bah finalement, en faisant passer ces personnages pour des débiles.
Je pense qu'il l'a fait quelques fois, et peut-être deux fois dans le bon sens. Enfin, il s'est trouvé un peu d'humour, etc. Mais là, c'est vraiment très désagréable à regarder. On est vraiment sur une agression d'une autre personne.
Je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que ça le sert aussi. On parle d'Ardisson.
Ouais, mais de toute façon, c'est la télé aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est dans la mode du clash à la télé en général. Enfin, il y a même des émissions qui deviennent des parodies d'elles-mêmes à force d'être dans le clash permanent. Enfin, je pense à l'émission de Ruquier, On n'est pas couché, ou à des émissions comme ça, ou Touche pas à mon poste, qui finalement repose que sur des clashs entre animateurs qui se tweetent des trucs méchants et tout. Donc, c'est un peu l'ère de la télévision aujourd'hui. Mais moi, j'ai l'impression qu'elle fait ça, la télé, parce que justement, elle est has-been. C'est-à-dire que elle est perdue. C'est-à-dire que en fait, elle veut ressembler à Internet alors qu'elle est la télévision et qu'on lui demande pas de ressembler à Internet. Et du coup, les animateurs et tout se perdent. Ils ont l'impression de faire des. On a plus l'impression qu'ils font des fils Facebook ou des fils Twitter que des émissions en fait. C'est-à-dire qu'ils passent leur temps à s'envoyer des vannes, à dire tiens machin, à se troller les uns les autres. Mais c'est ridicule en fait. Sauf qu'au final, je te rejoins Stan. C'est pour moi, c'est la mort de la télé, de cette télé-là en tout cas.
Bah, elle a pas compris qu'il fallait changer. Enfin, il y a. Comme oui, elle parodie. Peut faire de la bonne télé.
Elle parodie au lieu de faire autre chose. C'est nul en fait au final. Enfin...
Oui, c'est pourri. Ça fait parler d'Ardisson. C'est ça le problème.
Mais oui, non, mais ça on est d'accord. Voilà,
hein. Ah oui, ça, tu fais bien d'en dire. Oui, c'était aussi une des raisons. Éteignez la télé, ne regardez pas Ardisson. Enfin non, regardez la télé ce que vous voulez, mais pas Ardisson. Et moi aussi, je vais plus jamais faire de chronique sur Ardisson en espérant qu'il disparaisse. Voilà, je voulais finir là-dessus en fait.
C'est ton challenge quoi.
Exactement. Même s'il va me tenter chaque week-end, j'en suis sûr, à faire des conneries, peut-être dès ce soir, tu vois. Je ne sais pas ce qu'il a fait encore ce soir.
Ça se trouve, il le fait exprès parce qu'il t'écoute. Hein.
Peut-être qu'il est fan de moi, je ne sais pas.
Là, la répercussion de son aura médiatique, il y a Stan à la cosmique.
C'était ça le truc.
On se fait
une petite musique.
Allez, on y go.
Je suis enfermé à l'étroit dans ma cellule. Tous les jours le même café, mais c'est le temps qui est soluble. Ces bonnes actions que l'on regrette, ces erreurs que l'on refait. Au parloir, je parle autant à mon fils qu'à mon reflet. Je suis gelé, j'enchaîne les vers et les hivers. Pour se rassurer, les passants doivent tous penser que l'on hiberne. Bercé par le son des pas et le bruit des pièces dans les poches. Entre ce type et mon chien, je me demande de qui je suis le plus proche. Je suis riche, ils veulent me faire croire que c'est une honte. Comme si j'étais responsable de toute la misère du monde. Moi, je dois rien à personne, même si l'argent vient à manquer. Ils veulent tous goûter aux fruits de l'arbre que j'ai planté. Je suis malade, mais je préfère dire futur soigné. Mes pupilles fixent l'aiguille de la montre qui brille sur mon poignet. À l'étroit dans mon corps, je regarde le monde par le trou de la serrure. Les gens diront que je n'ai fait qu'agrandir celui de la sécu. Je suis croyant, on me reproche souvent de l'être. On me reproche ma barbe, pourtant j'ai la même que Jean Jaurès. On me compare à des barbares auxquels je n'ai jamais cru. Les mosquées sont trop petites, alors parfois je prie dans la rue. Je suis un peu perdu, mes petits poumons se remplissent d'air. Nouveau venu sur terre, mes premières larmes déclenchent celles de mon père. Une chance auprès de ma famille, je me sens à ma place. Mais je n'oublie pas que j'aurais pu naître dans la chambre d'en face. Je suis seul au fond d'un couloir, on demande pas mon avis. J'ai pris de l'âge, donc voilà, j'ai bien plus de rides que d'amis. J'aimerais partager mes erreurs, vous faire part de mes doutes. Parfois je me parle à moi-même pour être sûr que quelqu'un m'écoute. Je suis épuisé, mais plus pour longtemps, j'en suis sûr. Les sonneries téléphonent, la pression élargit mes blessures. Je me souviens pas de la date de mon dernier fou rire. Je suis un homme, bientôt je serai un souvenir. Je suis enfin là, cette terre n'est plus un mirage. Je suis arrivé par bateau, mais surtout par miracle. Une nouvelle vie m'attend ici, bien plus calme et plus stable. Ce matin j'ai écrit tout va bien au dos de la carte postale. Je suis fier, mais comment vous décrire tout ce que je ressens quand je marche en ville, de moins en moins de gens me ressemblent dans l'ascenseur. Je parle même plus la langue de ma voisine. À force de planter des arbres, y aura plus de place pour nos racines. Je suis fatigué, mal au dos et mal aux reins. Les rides sur mon visage me rappellent les montagnes de là où je viens. On m'a menti, et c'est trop tard que je l'ai compris. On dit que ce pays n'est pas le mien, alors que c'est moi qui l'ai construit. Je suis assis, et le destin fait que je me relèverai jamais. Dans cet océan, j'ai l'impression d'avoir toujours ramé. Un casse-tête pour monter dans le bus, aller au taf, passer leur porte. Souvent les gens me regardent et me répondent que c'est pas de leur faute. Je suis heureux, jeune diplômé, esprit bétonné. J'ai étonné ceux qui rêvaient de me voir abandonné. Ma famille est loin d'ici, j'espère que là-bas ils sont fiers. Je viens de gagner le combat qu'avait commencé ma mère. Je suis confiante, je regarde ma classe un peu trop pleine pour moi. Et je leur tiendrai la main jusqu'à ce que la réussite leur ouvre les bras. J'ai compris que parfois les adultes sont paumés, parce que les plus grandes leçons c'est eux qui me les ont données. Je suis énervé, dans mon quartier on s'ennuie loin de la ville. On écrit, on prie, on crie et j'ai des amis qui deal. Mon grand frère est au chômage, mon pote se fait 5000 par mois. Au collège c'est le bordel, bientôt je devrais faire un choix. Je suis loin, ce qui se passe chez moi n'intéresse pas grand monde. Pour les autres on vit un rêve, pourtant souvent on tourne en rond. Tout est cher, avec le continent y'a comme une latence. La plage, les palmiers, mais moi je suis pas en vacances. Je suis discrète, mon père m'a dit de ne pas faire de vagues. Ma religion un phare guidant mes pas depuis que j'ai mis les voiles. C'est drôle qu'il me surveille et qu'il fasse tout pour me donner une leçon en m'empêchant d'aller en cours. Je suis inquiet envers ma foi, beaucoup de regards hautains. Je reçois des leçons par des types qui ne font rien pour leur prochain. L'humanité n'a plus de cœur, je vois le monde qui tourne et qui change. Et je suis triste de voir qu'il y a de moins en moins de gens le dimanche. Je suis amoureux et je vois pas qui ça regarde, à part moi et celui avec qui je partage mon lit le soir. Je l'aime, on se slalome entre les insultes et les blagues. Dire qu'il y a peu de temps je n'avais pas le droit de lui offrir une bague. Je suis oublié, mes fins de mois se font sur le fil. C'est devenu rare d'aller au resto ou d'aller voir un film. Je suis qu'un chiffre, qu'un vote, une statistique, un point de plus dans la foule. Moi je suis juste né ici et j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. Je suis un rendez-vous, un hasard, un match de foot, un mariage, une manif, un annie, une accolade, une bagarre, une scène de crime, un jugement, un gosse qui rit, une erreur, une montagne enneigée. Je suis la pointe de la plume d'un odeur. Je suis les pleurs d'un départ, je suis la chaleur des bars. Je suis une saveur 5 étoiles ou bien le gras d'un kebab. Les flemmards, les couches, les leftos, les râleurs, les regards dans le métro. Un oncle raciste, un concert vide, la crie, la déprime qui réserve les taux. Je suis l'excellence, l'élégance ou l'espérance d'une naissance. Ces campagnes dans le silence, ces grandes villes immenses si denses. Je suis un peu de moi et beaucoup des autres quand j'y pense. J'y pense, j'y pense. Je suis la France.
Et de retour à la causerie. Enfin, j'ai pas vu le top départ.
Ça s'arrête d'un coup, quoi.
Ouais, boum, bim. Donc, on vient de s'écouter Big Flo et Oli avec leur titre Je suis, qui était de leur premier album. Il y a eu un deuxième album qui est sorti il y a pas très longtemps. Voilà.
Tchach.
Et on va suivre. Donc, vous êtes toujours sur la causerie, hein, 22h-23h, à Radio Canu. Et on va suivre avec Jean-Yves, qui va nous faire un petit point sur l'esclavage.
Oui, tout à fait. En fait, je vais vous lire un courrier. Je vais vous détailler un petit peu plus. Le 13 novembre 2017, ça faisait 500 jours que Moussa Biram, un militant de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste, IRA, en Mauritanie, est en détention avec son camarade Abdali Matala. Après 3 transferts, ils sont dans une prison du désert, dans le nord du pays, d'où Moussa écrit une lettre ouverte pour rappeler leurs conditions de détention tout en réaffirmant leur détermination à se battre contre l'esclavage. Donc d'abord je me suis demandé comment j'allais faire et je me suis dit que le mieux c'était de lire ce qu'ils nous avaient écrit, qu'ils écrivaient à tout le monde.
Avant que tu démarres la lettre, je voulais juste souligner de remercier tous les gens qui font partie de ces réseaux progressistes qui font des traductions, parce qu'elle n'était pas en français au départ, la lettre, et qui traduit, ce qui nous permet à nous de pouvoir passer l'information.
tout à fait. Alors, je commence donc cette lettre. Ce matin encore, depuis 500 jours, nous nous sommes réveillés en prison. Cela fait plus de 16 mois que mon ami Abdali et moi sommes éloignés de nos familles et amis, détenus dans ce no man's land, au milieu du désert de Bir Mograine, à la pointe nord de la Mauritanie. Ici, nos journées restent noires, chaudes, sans contact humain extérieur et sans possibilité d'échanger avec nos co-détenus, en majorité des condamnés à mort. Nous sommes donc en prison depuis 500 jours, privés de voir les êtres chers qui comptent dans notre vie. Nous ratons les sourires innocents de nos enfants et manquons des moments privilégiés avec nos épouses et amis. Nous sommes en train de payer le prix fort de notre lutte pacifique contre l'esclavage et la discrimination en Mauritanie. Abdali et moi sommes certes nés libres, mais nous sommes tous deux des descendants d'esclaves. Dans notre pays, la Mauritanie, la pratique de l'esclavage, bien qu'interdite, se perpétue. Des familles entières appartiennent encore à la famille de leur maître et sont contraintes de servir toute leur vie leur propriétaire. Pour ce combat, Abdali et moi avons été condamnés depuis le 23 novembre 2016 à 1095 jours de prison ferme, soit 3 ans. Nous avons été torturés pendant les premiers jours dans une prison secrète à Nouakchott, c'est la capitale. Les autorités mauritaniennes nous reprochent d'avoir participé à la manifestation de la Gazra de Bouamatou, un bidonville de Nouakchott, où le 29 juin 2016, les habitants à majorité des Haratines menacé d'expulsion avaient organisé une manifestation spontanée. Pourtant, nous n'avions ni participé ni organisé cette manifestation. Avant de continuer, je voulais juste vous apporter la précision de qui sont en fait les Haratines. Donc les Haratines, en arabe, Haratine est le pluriel de Haratni, qui signifie littéralement l'affranchi, le libéré. Le terme désigne en fait les Mauritaniens noirs, qui sont Peul, Soninké et Wolof, descendants d'esclaves, et au service de la communauté arabo-berbère, dit des morts blancs, qui sont environ 40% de la population. Voilà. Je continue donc le courrier de Moussa Biram et d'Abdali. La vérité est que notre seul crime est cette lutte pacifique que nous menons contre l'esclavage et la discrimination en Mauritanie. Ce matin, j'avoue, je ne sais pas très bien ce que je ressens. Cette détention est certes la première pour mon co-détenu Abdali et moi, mais je n'ai absolument pas l'impression qu'elle soit la dernière pour nous ou pour nos camarades de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste. Donc l'IRA, comme je vous le disais avant. Comme aime le répéter Abdali, les jours de prison ont triplé notre détermination. Depuis notre arrestation, nous avons été pris dans un cycle infernal. Humiliation devant nos jeunes enfants et épouses, détention durant plusieurs jours dans une prison secrète, torture, simulacre de procès, refus du procureur d'ouvrir une enquête sur nos allégations de torture alors que nous présentons des cicatrices apparentes. Et pour couronner le tout, depuis décembre 2016, nous avons été transférés il y a 10 mois à la prison de Bir Mograine, à 1100 km de la capitale, Nouakchott, et de nos familles. Nous refusons toutefois que nos familles et nos amis et familles traversent cette zone dangereuse, sans route goudronnée ni piste, seulement pour nous retrouver. Aujourd'hui, après 500 jours durant lesquels nous avons été baladés entre 4 prisons dont une secrète, nous ne savons pas à quoi nous en tenir. Nous avons fait appel de notre condamnation. Nous attendons depuis un an que la Cour suprême ouvre notre dossier. En ce 500e jour, nous souhaitons, Abdali et moi, remercier nos amis et familles pour leur solidarité et leur détermination. Le souvenir de leur visage déterminé, aperçu la nuit avant notre inculpation par le parquet, renforce chaque jour notre courage. Nous devons continuer à avoir le courage de changer le monde et défendre ceux qui se battent contre l'esclavage en Mauritanie. Car, comme le dit Martin Luther King, toute injustice, où qu'elle se produit dans le monde, est une menace pour la justice partout ailleurs. C'est à nous de combattre ce crime contre l'humanité, mais aussi la discrimination. Après 500 jours de détention, Abdali et moi restons plus que jamais engagés à réaliser notre rêve de vivre dans une Mauritanie sans esclavage, sans racisme, sans discrimination. Une Mauritanie juste et équitable, soutenez-nous dans ce combat. Voilà. Par la lecture en tout cas de ce courrier, j'espère que ça nous éclairera toutes et tous un petit peu plus sur la situation et leur combat en fait, parce qu'ils sont les deux en tôle, mais il y en a eu d'autres qui étaient déjà en tôle. Et comme ils le disent, il y en aura encore certainement d'autres qui iront encore en tôle, parce qu'on sait très bien quand c'est compliqué, quand on s'attaque à une telle position de pouvoir qu'est l'esclavagisme en fait, Donc après, je voulais juste continuer vite fait par un petit rappel sur la Mauritanie et l'approche justement gouvernementale de l'esclavage. Alors donc la Mauritanie, c'est une république islamique, donc on peut déjà comprendre que le religieux a une place importante, C'est comme si on parlait du Vatican, j'ai envie de dire. Non, je déconne. Un pays qui est ambigu, alors parce que de l'extérieur, en fait, il a une image positive sur les scènes régionales comme internationales. Bon, grâce notamment, effectivement, à son bilan sécuritaire et à son statut d'allié des Occidentaux dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Donc, on arrive toujours à y voir du positif dans ça. En tout cas, les gouvernements arrivent toujours à y voir du positif.
Pognon est positif, ça commence pareil quoi.
C'est un peu tout ça. Et vu de l'intérieur, par contre, effectivement, c'est différent parce que bon, bah déjà, le pays est dirigé depuis le coup d'État de 2008 par Mohamed Ould Abdel Aziz, un ancien général réélu en 2014 quand même, au terme d'un scrutin boycotté par l'opposition et qui aurait la volonté de se maintenir au pouvoir plus que ce qu'il est censé faire. Donc voilà, il a aussi, très peu de respect pour l'opposition et une connivence plus qu'appuyée avec les religieux. Je fais une petite aparté, mais peut-être que vous avez entendu parler de ce blogueur mauritanien justement qui aurait offensé le prophète Mahomet. En fait, il dénonçait l'utilisation de la religion comme un outil pour asservir des gens. Par l'esclavagisme, en fait. Et donc, en fait, il a été condamné à la peine de mort. Et en fait, c'est le président qui a fait de la pression sur les religieux pour dire, lui, il faut le condamner, en fait. Donc là, sa peine a été revue à 2 ans, je crois, de tôle. Et ce n'est plus du blasphème, mais c'est de la mécréance. Et il faut quand même savoir que maintenant, la loi a été redurcie en Mauritanie depuis pas très très longtemps. Aujourd'hui, le blasphème en Mauritanie, c'est la mort. Voilà. Donc, je continue donc sur ce pays et sur l'esclavagisme. Donc, il y a Razoul Ould El Khala, commissaire adjoint aux droits de l'homme en Mauritanie, donc quelqu'un qui est censé quand même représenter quelque chose, a récemment affirmé donc qu'aujourd'hui, l'esclavagisme n'existe plus dans le pays. Les allégations faisant état de marché d'esclaves ou de l'existence de personnes asservies sont fallacieuses et mensongères. Pour prouver sa bonne foi, évidemment, le pouvoir a mis en place, en août 2015, 3 tribunaux spéciaux pour connaître des cas d'esclavage, une nouvelle loi qui durcit les sanctions à l'encontre d'auteurs de pratiques esclavagistes, et maintenant l'esclavage est reconnu comme crime contre l'humanité. Sauf que c'est pas aussi simple. Parce que c'est de la poudre aux yeux pour les associations mauritaniennes qui militent non seulement pour l'abandon de toutes les formes de soumission humaine, mais qui militent également pour une évolution des consciences, quoi. Eux, c'est vraiment leur mot, quoi. C'est une évolution des consciences, quoi. Donc, les procès se sont multipliés ces dernières années contre les militants anti-esclavagistes mauritaniens qui ne cessent de dénoncer le sort réservé aux damnés de la terre malgré l'abolition de la traite en 1980. Donc, vous voyez, et la Mauritanie a connu 4 notions d'abolition de l'esclavage. C'est hyper, hyper compliqué, en tout cas. Et donc il y a justement l'IRA, le collectif dont je vous ai parlé, Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste en Mauritanie, qui a été créé par Biram Da Abeid. Lui, il dit en fait toutes ces lois n'ont jamais été mises en application. En fait, elles sont exhibées dans les forums internationaux. Les lois qui ont criminalisé l'esclavage et qui prônent une peine de 30 ans pour les esclavagistes ne sont que de la poudre aux yeux. Rien n'a été fait malgré les centaines de crimes d'esclavage que notre organisation a portés devant les tribunaux, malgré les centaines de criminels d'esclavage avérés que nous avons dénoncés aux autorités. C'est plutôt nous qui partons en prison. Bah oui, il a complètement raison.
Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on crée des délits nouveaux. Parce que finalement, souvent, les opposants sont traités de blasphémateurs, ce qui permet comme ça de les zigouiller. Et comme on fanatise la population, c'est facile de zigouiller des gens qui dérangent.
Bah,
c'est un exemple typique de pourquoi ce genre de loi réapparaît en général.
C'est exactement ça. Et donc, il faut savoir qu'esclaves, anciens descendants d'esclaves et toute la communauté noire en Mauritanie, sont à peu près logés à la même enseigne, en fait. Je continue, il dit, chez nous, les esclaves sont des personnes qui naissent propriété d'autres personnes. Elles n'ont pas de papier d'état civil, elles n'ont pas le droit à l'éducation, elles travaillent sans repos, sans salaire, sans soins, et subissent des châtiments corporels. Donc, je voulais quand même apporter aussi une précision, c'est que souvent, on peut avoir des mots sur le travail ici, etc., que c'est une forme d'esclavagisme, sauf que quand on travaille ici, on peut s'organiser pour lutter contre. là, en fait, vous êtes rien, vous n'avez aucune identité, vous êtes que dalle, en fait. Vous n'êtes qu'un esclave, en fait, ou une esclave. Et donc, il continue, justement, donc, ce monsieur, Biram Abeid, il dit « Le maître a le droit de castrer son esclave quand il est beau et qu'on peut craindre une aventure sexuelle entre lui et les filles du maître ou les femmes du maître. Ces codes, d'ailleurs, autorisent qu'on castre cet esclave. » Ces codes précisent que tout propriétaire d'esclaves peut disposer sexuellement de toutes les femmes qui sont ses esclaves, quel que soit leur âge. C'est pourquoi, il continue, parmi les fillettes esclaves que nous avons libérées, certaines ont été violées dès l'âge de 7 ans. Déjà, à l'âge de 12-13 ans, elles ont des enfants. Elles disent avoir été régulièrement violées par leur maître, par les fils de leur maître et leurs cousins. Voilà le climat de tout ça. Donc justement, ce militant Biram Abeid, lui, il a fait un truc, c'est qu'il est parti un peu de Mauritanie. Enfin, il a pas quitté la Mauritanie. Hein. Il a décidé, parce qu'après qu'il était enfermé, il s'est dit, mais en fait, tous les gens qui sont venus me voir en tôle, en fait, c'était plein de politiques, etc., mais qui étaient majoritairement pas d'Afrique, en fait. Et le mec, il s'est dit, mais c'est pas possible, en fait. Enfin, le continent africain doit aussi... Donc lui, il a fait une caravane, en fait, et ils sont partis comme ça dans différents pays pour aller porter ce truc-là en disant, faut, à un moment donné, faut pas déconner, faut lutter avec nous, quoi. Et en fait, en octobre 2016, et ben suite à son activisme, en fait, la Commission africaine des droits de l'homme a adopté une résolution condamnant l'État mauritanien pour, je cite, « connivence avec les milieux esclavagistes ». Donc je pense pas que ça change tout au tout, mais en tout cas, ces militants sont pas non plus complètement isolés. Alors après, on peut se dire, oui, c'est de l'institution. Ouais, enfin bon, à un moment donné, quand on est dans leur situation...
Ça visibilise.
Faut que tu... Oui, non, mais de toute façon,
ça qui est important.
Faut que tu sois sur quelque chose, faut que tu t'appuies sur des choses, en fait. Hein. Donc voilà, donc je voulais juste quand même terminer par... en 2014, il y a une ONG, Walk Free, c'est une ONG australienne, elle estimait à plus de 150 000, en fait, le nombre d'esclaves en Mauritanie, hein, ce qui représente environ 4% de la population mauritanienne, ce qui n'est pas rien. Et dans le monde, il y a 40 millions d'esclaves. Donc voilà. Donc moi je vous conseille aussi, je vous le donne, le site de IRA, justement, c'est cet asso pour la résurgence du mouvement abolitionniste en Mauritanie. C'est donc iramauritanie.org, donc IRA, I-R-A, et Mauritanie tout attaché derrière, sans tout en minuscule, .org. Et vous pouvez effectivement rester informé, vous pouvez même les contacter, pourquoi pas. Enfin, il y a plein de choses à faire, et encore une fois, même si on change pas beaucoup leur situation ici, en tout cas, c'est toute cette notion aussi d'un internationalisme et d'entraide internationale qu'on doit faire. Enfin, c'est un avis très personnel, mais je pense vraiment qu'on doit le faire. Qui plus est, quand on est sur un média comme Radio Canu, je pense vraiment qu'on doit, comme on a pu le faire pour les anarchistes, par exemple, au Venezuela, pardon. Je pense qu'il faut aussi qu'on se fasse les porte-voix, les haut-parleurs de ces gens-là qui des fois hurlent entre quatre murs de prison, mais voilà.
Vas-y. Et quoi qu'il arrive, le type s'est donné beaucoup de mal pour écrire cette lettre, pour qu'elle arrive quelque part, donc la moindre des choses, c'est de la relayer au maximum.
Et en fait, on a de toute façon aujourd'hui une sorte de résurgence de l'esclavagisme, et surtout on a heureusement des journalistes qui arrivent à sortir des choses. Je pense par exemple à ce qui se passe en Libye avec le journaliste de CNN qui a réussi à filmer ce qui est horrible, hein, un marché aux esclaves, ça porte un nom, c'est comme ça. Je rappelle aussi des journalistes qui, y compris des journalistes d'Arabie Saoudite, qui avaient sorti une info en 2015 sur justement des femmes mauritaniennes qui étaient vendues comme esclaves dans le royaume saoudien. Voilà. Et donc en fait on se rend compte que heureusement c'est un sujet qui commence un petit peu à revenir dans l'idée qu'il faudrait en parler, vous voyez, parce qu'en réalité ça n'a jamais disparu, et que on a fait un petit peu comme si ça avait disparu. Et c'est un petit peu ce que disaient certains penseurs qui viennent du continent africain, qui disent le réel problème qu'on a avec l'esclavage, c'est que on le cantonne en fait à l'esclavagisme qui avait lieu via les pays d'Europe, et en fait on fait comme si les pays d'Europe ne le faisaient plus, donc ça n'existe plus. Et en fait ils disent non, c'est une erreur, parce qu'en réalité il y avait déjà, avant de l'esclavagisme intra-africain, il y a aussi de l'esclavagisme en Asie. Et en fait, comme on dit, c'est fini parce que l'abolition de l'esclavage c'est telle année, on a l'impression que tout est terminé, alors qu'en fait non, il y a encore du boulot et il faut le faire, quoi. Voilà.
Il y a encore énormément de boulot, parce que 40 millions d'esclaves, tant qu'il y en aura encore un, ce sera toujours de trop, quoi, j'ai envie de dire.
Clairement.
Donc voilà, et que après, je voulais juste réagir sur la notion des marchés d'esclaves en Libye. En fait, il y a une info qui était déjà sortie il y a quelques années, je crois bien. Mais encore une fois, là aussi, enfin, il y a quelque chose. Moi, il y a eu des manifs en France et un peu partout ailleurs sur justement non à l'esclavage et à l'esclavage. Et alors, par exemple, j'ai vu une pancarte, c'était non à l'esclavage en Libye.
Non, l'esclavage.
Mais en fait, c'est non à l'esclavage, quoi. Enfin, à un moment donné, je pense qu'il faut aussi qu'on s'interroge, nous, dans nos luttes. Et en fait, des fois, j'ai l'impression que c'est quasi identitaire, quoi. Et qu'en fait, non, l'esclavagisme, en fait, qu'il ait lieu en France, il y a aussi des situations d'esclavagisme. En Europe, enfin, où que ce soit, en fait. Enfin, à un moment donné, si on se la raconte internationaliste, c'est que qui que ce soit est notre semblable partout ailleurs dans le monde, quoi. Donc, je pense que là aussi, il faut vraiment qu'on s'interroge parce que. Enfin, quand j'ai vu cette pancarte, je me suis dit, mais
c'est parce qu'ils allaient c'est parce qu'ils allaient devant l'ambassade libyenne. Je pense que c'était pour interpeller l'ambassade. Mais après, oui, c'est vrai que ça aurait suffi, quoi.
Bah ouais, je pense que non à l'esclavagisme, en fait, ça parle. Si t'es devant l'ambassade libyenne, je pense que ça parlera aux ambassadeurs libyens. Et si tu vas devant un autre truc, enfin, c'est assez étrange.
Ah, tu veux dire qu'il faut pas refaire la pancarte à chaque fois, c'est possible.
Bah non. Non, non, mais qu'en plus, vraiment, je trouve que c'est très, comment dire, très,
sectorisé.
Oui, sectorisé, c'est-à-dire chacun sa petite lutte. Donc après, alors, je fais une. Oh, pardon, je suis trop long.
Non.
Mais ce qui fait qu'après, oui, effectivement, on est gargarisé sur la convergence des luttes. Mais en fait, il y a des luttes, elles sont générales. C'est-à-dire contre l'esclavagisme, en fait, où qu'il soit. Enfin, et que vraiment, je pense qu'il faut vraiment qu'on réinterroge nos militances, en fait. Enfin, voilà. Donc j'espère que vous en aurez appris un peu plus sur tout ça, qu'on aura passé le message de ces messieurs emprisonnés.
Et on mettra le lien, de toute façon, sur le blog.
Ouais. Pas de souci. Eh ben allez, on part avec une petite. Ah, vous aviez rajouté quelque chose ?
C'est parfait.
Non,
c'est parfait.
Eh ben allons-y, alors on écoute la musique. Vous êtes de retour à la causerie comme tous les dimanches de 22h à 23h. Et on vient de s'écouter Django Reinhardt avec le titre Swing Guitars. Voici. Et donc nous continuons. C'est Jonathan qui prend la suite et qui va nous causer. On va philosopher autour de la possession. Possession. Pardon, de la possession, de la chosification, de la propriété, tout ça, tout ça.
Tout à fait. En fait, je vais vous proposer une petite dizaine de minutes, un tout petit quart d'heure, sur se poser la question de qu'est-ce que c'est que la propriété. En fait, qu'est-ce que c'est que le fait de dire c'est à moi. Alors, je vois qu'il y a un problème.
Non,
avec
non, va bien.
Super. Alors, du coup, moi, je suis quelqu'un hein, comme tout le monde. Donc, quand j'ai envie de me renseigner sur quelque chose, il y a 15 ans de ça, j'allais chercher une encyclopédie. J'allais dans une bibliothèque. Aujourd'hui, je vais sur Internet, ce qui me permet de rester au chaud et sur mon canapé. Alors, je précise que sur cette chronique, on ne peut pas s'arrêter là. Il y aura des, enfin, je vais donner des pistes, mais ça peut pas être ce que je vais fournir ne peut pas être une réflexion complète, parce que la notion de propriété se décline en tout un tas de notions, la notion de possession et la notion d'objet également. Donc, je pars sur un survol et je me dis voilà bon ben. Qu'est-ce que c'est que la propriété ? Au fond, qu'est-ce qu'on entend par propriété quand on veut la définir pour l'expliquer, notamment au niveau juridique ? Eh bien, il y a une définition qui, déjà, segmente la propriété en trois choses. Le fructus, qui est le droit d'utiliser, enfin, de recueillir les fruits du bien, à savoir le profit. L'usus, qui est le droit de l'utiliser ou alors l'usage, et enfin l'abusus, qui est le droit d'en disposer, c'est-à-dire de le détruire en tout ou partie, de le modifier ou de le céder à quelqu'un d'autre. Donc déjà, on s'aperçoit que la propriété d'une chose entraîne plusieurs droits sur cette chose. Donc la propriété peut être matérielle ou intellectuelle. La propriété matérielle est intuitive, c'est le fait qu'on s'imagine qu'une chose, un objet ne peut généralement servir qu'à une seule personne à la fois. Et la propriété intellectuelle est une, alors, je cite Wikipédia, une invention moderne pour désigner un artifice juridique qui transforme un élément caractéristique en une chose immatérielle et qui par ce fait est duplicable sans priver le détenteur initial de sa chose. Pour la faire un petit peu plus simple, c'est un brevet.
Oui, c'est ça.
Voilà. Mmh. Le premier à présenter la notion de propriété comme un droit naturel, c'est John Locke, donc qui est un philosophe, et qui nous dit que tout homme possède une propriété sur sa propre personne. À cela, personne n'a aucun droit que lui-même. Le travail de son corps et l'ouvrage de ses mains, nous pouvons dire qu'ils lui appartiennent en propre. Tout ce qu'il tire de l'état où la nature l'avait mis, il y a mêlé son travail et ajouté quelque chose, lui est propre, ce qui en fait par là même sa propriété. Donc là, on en arrive à la question de la création également, donc de la propriété par création. Est-ce que parce que je produis quelque chose, cela m'appartient ? Ce qui est une question très intéressante, parce que le capitalisme se repose sur l'idée que les biens de production appartiennent à un patron qui les loue, finalement, pour l'usage à ses ouvriers contre un salaire pour en tirer profit. Donc l'ouvrier, en échange de sa force de travail, peut utiliser des moyens de production et ainsi en tirer un salaire. Donc mine de rien, on arrive déjà dans la question de est-ce que je peux disposer de moi-même et de ma force de travail, dans qu'est-ce que réellement, comment je peux disposer de cette force de travail ? Est-ce que tout m'appartient dans mes moyens de produire ? Ceci. Est-ce que le pinceau en tant qu'artiste peintre que j'utilise est bien le mien ou est-ce que quelqu'un a des droits dessus ? Alors, ce qui m'étonne, c'est que c'est déjà une grosse question de, enfin, un gros méli-mélo de qui appartient à quoi dès qu'on veut définir un propriétaire. Mais là où ça devient encore plus drôle, c'est quand on se dit que... Alors déjà, John Locke prend le soin hein, d'associer à cela une clause de légitimité, histoire de faire attention, c'est-à-dire de dire que après chaque appropriation privée, il doit en rester assez d'une qualité aussi bonne et même plus que ne pouvaient l'utiliser les individus qui n'en étaient pas encore pourvus. C'est-à-dire qu'il faut répartir ce qu'on peut s'approprier de manière égalitaire. Donc, voilà, il part sur une bonne intention, mais de là... Qu'est-ce qu'il advient un peu plus tard dans l'histoire ? On écrit l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et on dit que dans les droits inaliénables, enfin naturels et imprescriptibles de l'homme, il y a le droit de propriété. Alors le droit de propriété de lui-même, mais aussi le droit de propriété terrienne, donc physique. Et là, on en arrive à une question qui est, ben, ok, moi je me possède, je possède des moyens, je peux m'arranger avec d'autres gens qui possèdent d'autres choses pour avoir une sorte de propriété d'usage, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais surtout, qu'est-ce qui m'appartient ? Sur quoi, en fait ? De quoi je dispose à volonté ? C'est-à-dire à volonté selon mes pulsions aussi, pas forcément selon une logique. Et là, je vais vers la définition de Proudhon qui dit que la propriété, c'est le droit par lequel une chose appartient à une personne à l'exclusion de tout autre. Et c'est bien pour ça qu'on peut la détruire, parce que personne d'autre ne l'utilisera derrière. Et donc là, je vais vous inviter à aller voir un article qui est sur zone-7.net, je donnerai les liens sur le blog, et qui introduit l'article par posséder, c'est détruire un peu. Pourquoi ? Parce que, en effet, quand on considère qu'il y a un propriétaire unique sur une chose, on enferme cette chose, on la met au coffre-fort, et ce faisant, nous réduisons l'utilité de l'objet, car inutilisée, elle est indisponible, et donc elle n'a plus sa valeur.
C'est pour ça que Proudhon ajoutait que la propriété, elle vole.
Exact. Il y a un petit côté, oui. Bah oui, en
c'est
effet,
ce qu'il disait
voilà.
Après sa définition de la propriété, il disait, il ajoute plus loin que la propriété, c'est le vol.
En même temps, c'est là où je veux en venir aussi, quelque part, c'est que comment s'approprier quelque chose, finalement, si toute propriété est relative. Mais bon. Pardon. Avec la propriété, il y a aussi une idée qui est un petit peu gênante, qui est l'idée de possession. Alors, parce que inhérent à l'idée de possession, celui qui a le contrôle total de l'objet possédé, puisqu'il est à lui, peut en disposer comme bon lui semble. Donc, cette notion de possession, ouais, je rejoins le vol aussi, et même le viol, parce que quelque part, quand on s'approprie des choses ou des personnes, et ben, quel que soit le prix qu'on en paye, est-ce qu'on en paye réellement sa valeur ? Donc on est forcément dans une appropriation. Et cette appropriation, bon, ok, elle peut être intellectuelle, naturelle, d'une convention sociale ou une propriété de soi-même, mais quoi qu'il arrive, en fait, c'est l'idée de posséder les choses. Et la possession, c'est quand même un concept qui... Alors, pour rejoindre Henri Lepage, hein, le droit de propriété, c'est le substrat majeur du droit libéral. C'est-à-dire que...
C'est bien dit.
C'est une phrase, c'est une citation. Mais c'est-à-dire que de l'idée de propriété, on peut créer tout un tas de lois et de systèmes qui permettent d'exploiter une société. Donc, la liberté de produire, de commercer, liberté de parole, d'expression, donc de la presse pour... finalement créer de la valeur, liberté d'utiliser ses ressources, etc. Et donc tout ça de manière contractuelle avec donc un échange en fonction de ce que l'on produit. Donc toujours cette idée-là. La possession, par contre, donc je suis allée chercher sur coursdedroit.net, hein, le truc que les étudiants en droit vont voir pour bosser leur petit cours et devenir avocat. La possession, c'est défini comme l'exercice d'une maîtrise de fait sur un bien, sans qu'il importe que cette maîtrise de fait corresponde ou ne corresponde pas à un droit. Donc là, on rejoint Proudhon, on rejoint le vol. C'est-à-dire qu'en fait, on s'en tape que t'aies le droit ou que t'aies pas, que t'aies un contrat qui te donne l'autorisation de disposer d'eux. Non, en fait, c'est le fait que tu te le sois approprié en fait de toi le possesseur. Et en droit français, la possession est régie par le code civil. C'est-à-dire qu'il y a la possession matérielle, le corpus, et la possession psychologique, donc le brevet, etc., qui rejoint l'idée d'animus domini. Donc, le fait de s'affirmer comme propriétaire de quelque chose. Cette possession permet d'acquérir le droit de propriété par prescription abrégée, ainsi que de lancer des actions de possession. En gros, une action de possession en économie, c'est une OPA. C'est-à-dire, je te la rachète, même si tu veux pas, mais parce que j'ai plus de fric que toi. Et de manière sociale, je suis désolée, c'est un viol par exemple, ou c'est une agression, ou c'est à un moment donné l'esclavagisme, le fait de déposséder une personne d'elle-même. Donc, en matière immobilière, de la même manière, c'est accéder à la propriété au terme d'un délai de prescription. Donc là, c'est un petit peu comme on l'a vu dans le droit, c'est que si personne ne l'a réclamé, c'est à toi. Donc là, on voit qu'on va vers le non-sens quand même. Hein. Personne ne l'a réclamé, c'est à toi. Peut-être que si personne ne l'a réclamé, c'est que c'est à personne. Enfin, voilà. Mais bon. Donc dans l'idée, voilà. Dans le régime des biens, la possession, c'est l'état de fait qui découle d'une personne qui se croit propriétaire d'une chose mobilière ou immobilière et qui se conduit du coup publiquement propriétaire. Mais dans les faits, même en justice, finalement, la possession n'existe pas. elle est juste mise en place par le possesseur. Donc pour aller un petit peu plus loin, moi je vous invite à aller voir le petit article de Wikipédia sur la possession en droit romain qui donne quelques pistes et qui amène en fait à l'origine de la confusion entre possession et propriété. Donc c'est assez sympa comme entrée en matière. Mais surtout, il faut voir voilà, que la possession, comme je disais, elle est régie par le droit français et elle est désignée par la loi comme matérialisant un rapport de droit direct entre un bien et un sujet. Donc hein, on voit bien de quoi on parle. De droit, tandis que la possession révèle une relation factuelle entre ces mêmes entités. Il faut savoir que pendant des années et des années, par exemple, le chef de famille possédait sa famille sur ce type de loi-là. Donc la propriété régit la possession. Quelque part, pour lui donner un côté légal. Mais la possession, j'y reviens et j'insiste, c'est quelque chose de totalement arbitraire. On a l'acquisition de la propriété immobilière, mobilière, et le fait que la possession prouve la propriété. Donc là, on est dans un cercle juridique qui est magnifique. C'est-à-dire que, en gros, si tu possèdes quelque chose, tu peux te déclarer propriétaire, et si tu es propriétaire déclaré, alors tu peux prouver ta possessivité, le fait de posséder. C'est quand même fou, quoi, comme on s'arrange bien hein, entre gens qui aiment posséder, quoi. Donc, moi, je vous invite aussi à aller voir un article qui est très bien sur angledroit.hypothèse.org et qui commence comme ça. La légitimité de la notion de possession est confortée par le constat de son utilité dans l'ensemble des branches du droit. Son utilité s'impose cependant à des degrés différents et présente dans des manifestations diverses. Une approche prospective a permis de défendre l'idée de renforcer son rôle dans l'ensemble des domaines du droit. Donc, ce que j'aime bien dans cette introduction, c'est que c'est bien une notion de légaliser la possession qui fait que la propriété existe. Et alors, du coup, moi j'aimerais aller un petit peu... en me dépêchant quand même, vers Bernard Friot, qui est un penseur économiste, et j'espère ne pas dire trop de bêtises, parce que je viens de le découvrir, même s'il existe depuis longtemps. Il n'est pas tout jeune, mais voilà, hein, il n'y a pas d'âge pour la culture. Et du coup, j'ai été impressionnée par un article qui est paru dans Le Monde Diplomatique, donc de novembre 2017, et qui parlait de la propriété d'usage, et en fait, qui est la notion de propriété qui me semble la plus réaliste, puisque finalement, c'est le fait d'utiliser des biens pour pouvoir produire quelque chose, sans considérer qu'ils nous appartiennent dans leur totalité, dans leur intégrité. Et pourquoi je parle d'intégrité ? Parce que quand on rejoint la question éthique, finalement, de la possession, parce que jusque-là, je suis restée beaucoup dans le juridique, mais quand on rejoint la position éthique, on est toujours propriétaire de son corps, et c'est une façon finalement assez impropre de parler, c'est une façon de parler, parce que on parle de possession des individus, on parle de possession aussi par l'État, on n'a pas le droit de disposer de son corps comme on le souhaite, et parce que c'est une vraie question, est-ce que finalement on peut autoriser les gens à vendre un rein, un œil ou ce genre de choses, à rentrer en gestation pour autrui, à ce genre de choses, c'est une vraie question ouverte. Hein. C'est est-ce que finalement la propriété de son corps n'est pas illusoire également ? Est-ce que finalement on n'est pas toujours confronté face à l'éthique et face à la loi par rapport à cette question-là qui est...
Ou face aux besoins ?
Et face aux besoins.
Parce qu'on peut aussi gruger la propriété par le besoin créé en fait.
Complètement. Et de toute manière, la loi s'adapte forcément aux besoins aussi. Donc, et pour faire réfléchir un petit peu plus loin, pensez à ces notions de possession biblique et de béatitude. Le fait d'être possédé ou dépossédé, ou alors même irresponsable. Ou alors la possession humaine et l'esclavage, donc comme en parlait Jean-Yves tout à l'heure. Le fait de posséder des gens pour son propre usage est total. Et la possession de son corps, comme je viens en parler. Donc, notons que, finalement, la notion de propriété, même la nôtre, n'est pas forcément réelle, que c'est une notion qui est beaucoup plus juridique et beaucoup plus éthique, qu'il faut prendre en compte la notion d'indisponibilité du corps humain, c'est-à-dire tout, finalement, l'ensemble de règles éthiques et juridiques qui entourent le fait qu'on ne peut pas vendre des parties de soi. Voilà. Et donc, à réfléchir sur la question de la possession d'autrui, sur la domination en général et le fait d'asservir un objet comme on asservirait un individu, un animal, etc. Voilà. Désolée, c'était un peu condensé.
Non, mais c'était, C'était condensé.
Voilà, c'est... Donc, comme
non, mais dit, du coup, si tu reviens sur le sujet, parce que tu as dit que ça ouvrirait d'autres réflexions, après, c'est les deux voies, quoi. C'est celle que va peut-être défendre Friot, qui est la propriété d'usage, mais qui me semble, moi, problématique, parce qu'elle n'abolit pas la notion de propriété, et que quelque part, ça s'interroge.
C'est une question que je me suis posée aussi, parce que est-ce que finalement, on peut pas juste parler d'usage?
Ben voilà, et c'est là que je voulais en venir, c'est qu'après tu as une autre vision qui est l'abolition de la propriété au profit de l'usage collectif et qui n'est pas tout à fait la même chose.
Oui, voilà, qui sont même deux, enfin, presque similaires, c'est deux voies politiques différentes.
Ah,
il y en a une qui est quand même plus...
Il y en a une qui est plus marxiste, voilà, ancienne, oui, marxiste, oui. Et une qui est plus anarchiste,
voilà.
pour dire les choses assez libertaires. Mais c'est des pistes intéressantes, c'est-à-dire que pour moi, voilà, ça s'interroge et je trouve que parfois dire on met juste un truc après un mot, et ça le rend plus fun. J'ai l'impression que des fois, ça le rend juste un tout petit peu plus fun,
non,
mais ça
ne
résout pas
question,
tout le problème. En fait,
c'est cette question dans notre univers, là, actuellement, tout capitaliste qu'il est. Est-ce qu'il y a moyen de trouver une alternative
ça, ouais.
à ça? Et surtout, ouais, bien se rendre compte que la question de propriété, quoi qu'il arrive, elle est...
Elle est centrale dans notre société aujourd'hui.
Elle est centrale, mais donc, en même temps, c'est une notion qui est purement inventée, quoi.
Oui.
C'est une notion synthétique, j'ai envie de dire. Mmh. C'est quelque chose qui n'aurait pas de sens si on n'avait pas eu besoin, quelque part, de légitimer la possession.
C'est ça. Mais c'est central dans la société capitaliste.
Possession, sinon, on ne peut pas faire acheter quelque chose de cette manière si ça ne doit pas t'appartenir à terme et donc si tu ne peux pas en disposer comme tu voudrais. Il y aurait des tas de choses qui ne se monnayeraient pas.
On attend le prochain volet alors.
Le volet de...
Sur tout ça.
Moi, j'attends le prochain volet de nos auditeurs pour eux-mêmes mener une réflexion constructive sur la notion de possession.
Donc, rappelle-leur où ils peuvent t'écrire.
Alors, c'est très simple, lacauseriecanu@gmail.com.
Voilà.
Ça, c'est pour. Vous pouvez aussi nous laisser des petits messages sur les blogs de Radio Canu parce que on aime bien les commentaires. Donc, sinon, blogs au pluriel.
.radiocanu.org/lacauserie.
Merci Jean-Yves.
Mais de rien.
Je vous propose qu'on passe directement au bref parce que il faut qu'on soit discipliné maintenant.
Oui.
Des gens après nous.
Dépêche.
Mais j'y vais.
Tu fais un jingle?
Pas de jingle.
J'ai cru que t'allais partir sur jingle bref. Enfin bref.
Jingle.
Voilà. C'est nul, mais ça m'a fait rire.
Je peux te faire un fond sonore tout le long.
Non, tu peux pas.
Si, je peux. Ça, j'en suis capable. Tant que Clara ne coupe pas le micro, c'est bon. Hein.
Attends,
Donc, on commence avec le lundi 20 novembre, donc demain. Donc c'est la mobilisation à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant et le collectif Jamais sans toi, donc TOIT, propose devant pas mal de collèges et lycées un moment pour se retrouver et puis pour dénoncer tout ce qui se passe. Comme nous ne pouvons pas en faire la liste ici parce qu'il y a beaucoup d'endroits, nous vous invitons à aller voir les lieux sur rebellion.info, mais il y a des actions dans tous les arrondissements de Lyon et aussi à Vénissieux, Neuville-sur-Saône, etc. Pour mémoire, il y a 343 enfants scolarisés aujourd'hui dans la métropole qui sont sans toit sur la tête. Voilà. Donc c'est pas juste un ou deux comme on essaie de nous le faire croire.
Je me disais, les 8 milliards que la région file au lycée privé catholique,
mais elle avait pas le temps de les filer à ça.
Ah bon, c'est toujours une notion de priorité politique, quoi. Pardon. La brève suivante, c'est comme tous les lundis, je la fais rapido, c'est permanence de soutien aux sans-papiers. C'est toujours à la Lutine rue Montesquieu et c'est toujours de 18h30 à 20h tous les lundis.
Eh bien, on enchaîne avec le mardi 21 novembre, avec une projection débat à Lyon 3, éthique et prison. Donc c'est la projection du film « Faites sortir l'accusé » qui sera suivi d'un débat sur le sens moral de l'enfermement avec le collectif Papillon et le journal L'Envolé. Donc c'est le 21 novembre 2017, de 16h à 20h30. C'est à l'Amphi Uvelin, au 15 quai Claude Bernard, donc à l'Université Lyon 3. Et il vaut mieux réserver, et c'est auprès de christophe.philosophie@gmail.com.
Et on va rappeler que le collectif Papillon anime une émission sur Radio Canu un jeudi sur deux à 20h.
C'est la rediffusion de leur émission. Leur émission a lieu à Saint-Étienne.
Oui, pardon.
Et c'est diffusé sur les ondes de Radio Canu tous les 15 jours en...
En léger différé.
Oui,
non, en alternance.
En alternance, merci. C'était le mot que je cherchais avec La Petite Cuillère, qui est une émission anticarcérale de Radio Canu.
Alors, on continue avec le mercredi 22 novembre 2017. Alors là, c'est dans le cadre du Novembre Liberté, on s'installe partout. Alors, ça s'appelle Demain, on loge gratis. Inventons une nouvelle forme d'habitat coopératif, la coopérative immobilière. Locataire ou propriétaire, nous engraissons soit un propriétaire, soit une banque et leur système capitaliste. Il existe pourtant une des alternatives pour lutter contre la spéculation immobilière. Pour changer de dimension, changeons de cadre. Inventons une nouvelle forme d'habitat coopératif, la coopérative immobilière. Et ça rejoint le sujet
totalement, ouais.
de Jonathan sur la propriété. Et donc, il y aura la participation de Baptiste Milondo, qui est auteur de divers ouvrages et partisan de la décroissance et du revenu inconditionnel. Il est membre du collectif Maintenant, avec un point d'exclamation, qui porte un projet de coopérative immobilière. C'est au CEDRATS, 27 Montée Saint-Sébastien, pardon, dans le premier, à 19h30, mercredi 22 novembre.
La suite, c'est le jeudi 24 novembre. C'est toujours dans le cadre de Novembre Libertaire. C'est la présentation du nouveau livre de Claire Ozias, Trimard, Pègre et Mauvais Garçon de mai 68. C'est édité par l'atelier de création libertaire. Et le livre de Claire Ozias présente à la fois la passion que fut mai 68 en France, mais aussi sa complexité, sans occulter les divisions qui existaient dans l'extrême gauche. Le tableau, qu'elle nous présente de ces trimards et autres mauvais garçons nous invite à sérieusement revisiter les lectures abstraites et théoriques sur la Révolution. Ce travail confirme qu'une autre histoire est toujours possible. Trimard à Lyon, Loulou à Grenoble, Zonard à Nantes, Katanguay à Paris ou Mouvement Révolutionnaire, Octobre à Bordeaux. Pour l'auteur, ce lumpen prolétariat était l'autre âme de la Révolution. Et ça se passe donc aussi au CEDRATS. Et ben dis donc, ils ont des choses qui se passent. C'est toujours le 27 de la montée Saint-Sébastien et c'est donc jeudi 24 novembre à 19h.
Et toujours jeudi, donc il y a l'espéranto qui est interrogé. Donc est-ce une langue libertaire ? C'est un retour sur plus d'un siècle d'histoire d'une langue libre et anationale. L'espéranto, une langue construite collectivement pour participer à la paix et à l'incompréhension au-delà des nations. L'intercompréhension.
C'est soit qu'on ne se comprenne pas du tout, on a créé une langue.
Voilà. Donc l'intercompréhension au-delà des nations. Ah oui, c'est le but, hein. Donc porté par des libres penseurs et des associations, notamment le SAT, Organisation Ouvrière Libertaire, l'espéranto a été vu comme une menace par les empires du XXe siècle. Il est aujourd'hui encore combattu, ou au mieux moqué et dévalorisé, par des forces sociales, politiques et économiques dominantes qui ne voient pas d'un bon œil cet outil de communication égalitaire. C'est au Cotopo, au 14 rue Lénaud, dans le 1er arrondissement de Lyon, à 20h30, jeudi 24 novembre.
Et on va continuer, toujours dans le cadre du Novembre Libertaire, samedi 25 novembre. C'est la présentation en chanson de la réédition de la biographie de Colette Mani, citoyenne blues. L'équipe d'Engarde Records est heureuse de pouvoir présenter à Lyon la sortie de sa réédition du livre Colette Mani, citoyenne blues. La présentation sera suivie d'un récital de chansons par les artistes du label MC Droppy et Marco Moustache. Oui, on ne rit pas au nom des gens qui chantent, non mais... C'est à la librairie La Griffe, 5 rue Sébastien Griffe, dans le 7e, c'est à 15h, samedi 25 novembre.
Et toujours samedi 25 novembre, on a bientôt fini, je vous promets, c'est Projection de Ni Dieu Ni Maître, une histoire de l'anarchie, c'est un film de Tancred Ramonet, donc là c'est le livre 1, on va dire, c'est le tome 1, c'est en présence du réalisateur, donc Tancred Ramonet, de Mimo Pucciarelli, du CEDRATS, et de Claire Ozias, dont on parlait tout à l'heure, qui est historienne. Et ça a lieu à la MJC Jean Massé, au 38 rue Camille Roy, dans le 7e arrondissement, à 19h, donc samedi 25 novembre.
Et donc le 26 novembre, dimanche, on a une projection qui s'intitule « D'égal à égal » au féminin, un film de Corinne Mélis et Christophe Cordier, donc qui a été fait en 2010. C'est le portrait de 4 femmes migrantes ou de filles d'immigrés syndicalistes. Elles ont choisi de mener un combat afin d'améliorer les conditions de travail et de lutter contre la précarité des salariés. Et face à des situations parfois difficiles, elles ont appris à se faire entendre. Ce sera la MJC Jean Massé, donc au 38 rue Camille Roy, comme l'a dit Jean-Yves juste avant, dans le 7e à Lyon, à 17h dimanche. Et bien sûr, dimanche prochain, la causerie.
Ah oui, à 22h.
Évidemment, à 22h,
un classique.
Ça, c'est 24 rue Sergent Blandan, dans le premier. Venez nombreux, il n'y a pas de café.
Il n'y a plus qu'un gobelet d'ailleurs, c'est fini.
Eh bien, je ne sais pas si vous trouverez l'émission après nous.
Ou pas.
Ou pas, vous verrez bien si dans 5-10 minutes, il y a de la musique autre que les bandes continues qui viendra. Eh bien, on vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne semaine pour la semaine à venir.
Bah oui.
Bah oui.
On fait des bisous.
Bah oui, on fait des bisous.
Et à la semaine prochaine.
Et on se quitte avec.
Ah oui.
C'est une très bonne.
On se quitte avec le titre que tu as choisi, Jonathan.
Ah oui. Eh ben moi j'en ai choisi Freedom. Un titre qui était Freedom de. Alors comme j'avais choisi plein de Freedom. alors c'est la BO de Django Unchained.
Voilà. Ben faisons ça.
Elle est préparée cette émission, moi je vous le dis. Allez, des bisous à toutes et à tous.
Ciao. Bonne semaine.
Ciao.
Děti nic, nebude prostě.